Nous voulons de chanter « Dieu est le soutien de mon cœur » et je crois qu'en toutes circonstances, nous devons nous tourner vers le Seigneur qui est le soutien, le seul qui va nous permettre d'avancer, le seul qui va nous soutenir de manière la meilleure possible, le seul qui va nous conduire plus loin dans ses voies. Et la prédication de ce matin va nous montrer comment Dieu peut être notre soutien. En guise d'introduction et avant que nous nous concentrions sur le texte de 1 Samuel 18 à 20, j'aimerais lire en préambule deux versets de l'Évangile. Le premier, situé dans Matthieu 5, où il est dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et un deuxième texte, situé dans l'évangile de Jean au chapitre 15, une parole de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Seigneur, ta parole est vraie, vivante, elle est une lumière sur notre sentier, elle est à même de nous relever et de nous conduire dans un chemin d'éternité. Qu'elle nous parle ce matin, ouvre nos cœurs. Amen. Si je prêche sur trois chapitres ce matin, il ne me va pas être possible de lire ces trois chapitres en entier avec vous. Je vais les parcourir, je vais les résumer, mais je vous invite de retour chez vous ou ce soir avant de dormir, de lire ces trois chapitres, 1 Samuel 18, 19 et 20, trois chapitres qui relatent l'histoire d'amitié entre David et Jonathan et qui nous montrent comment cette amitié a été mise à mal par le père de Jonathan, le roi Saül. Ces trois chapitres sont écrits un peu comme une pièce de théâtre, en trois actes, avec 10 scènes. On voit que c'est un récit qui est très construit, avec une spirale de la violence qui s'enclenche et qui ne cesse de s'approfondir pour arriver jusqu'au plus profond des ténèbres que l'on peut imaginer. Et pour contrebalancer ce récit de violence infernale, nous voyons le récit d'une amitié qui, elle, se développe et contrecarre ces projets de violence. En fait, ces trois chapitres sont l'histoire d'un roi, Saül, qui est déchu, qui est rejeté par Dieu et qui est tourmenté. Et puis l'histoire en parallèle d'un roi en devenir, David, sur qui demeure l'Esprit de Dieu. Et le contraste est saisissant entre ces deux figures. Le premier est centré sur lui-même et il s'enfonce dans la violence. Le second cherche à faire le bien, il cherche à marcher avec Dieu, mais il est victime de la folie meurtrière du premier. Saül va vers son déclin, David vers son apogée. Et le texte précise à deux reprises que Saül est en proie à un esprit mauvais alors que l'Esprit de l'Éternel repose sur David. Et il est dit 4 fois que Dieu est avec, l'Esprit de Dieu est avec David. On a l'histoire d'une amitié qui triomphe de la haine. L'histoire d'une fidélité, d'une estime mutuelle entre deux hommes, David et Jonathan, que tout pousserait à être concurrent. Ce sont deux jeunes hommes qui ont à peu près le même âge, qui sont tous les deux guerriers, tous les deux prétendants au trône, qui ont des origines sociales bien différentes, mais qui justement pourraient les pousser à la concurrence. Et malgré cela, ils sont liés par un pacte d'amitié qui rend cette amitié indéfectible. Pourquoi le narrateur biblique nous raconte-t-il cette histoire? Il tient d'abord à nous montrer comment Dieu a rejeté le roi Saül pour placer sur le trône un autre, d'une autre lignée, le roi David. Mais cette histoire nous montre aussi autre chose. Elle nous montre quel est le caractère que Dieu veut pour celui qui veut diriger son peuple. Elle nous montre quels sont les comportements requis pour celui qui veut être roi et celui qui veut être le berger du peuple de Dieu. À celui-là, les épreuves ne sont pas épargnées. Mais Dieu se révèle. Il se révèle à David d'une manière particulière, par une amitié. Il accorde son soutien au travers d'une personne concrète. Et souvent, Dieu agit par un frère, par une sœur, qui vont être des soutiens indéfectibles au moment de la tempête. Sans Jonathan, on peut imaginer que David n'aurait pas tenu. Il serait peut-être retourné à ses moutons, où il se serait mis à haïr son persécuteur. Mais grâce à l'amitié de Jonathan, David a les forces de continuer à faire ce qui est bien. Il a les forces de rester à la cour et Dieu le prépare à prendre la royauté. Alors je vais vous amener à prendre un peu de distance par rapport à cette histoire et à vous demander dans quelle mesure vous vous projetez peut-être vous aussi dans cette histoire. Peut-être que vous avez fait vous-même cette expérience assez étrange de chercher à faire le bien, de donner le maximum de vous-même, d'être aimable, d'être serviable, d'encourager les autres, de vous investir sans compter, et peut-être même de faire tout cela parce que vous êtes chrétien et parce que vous aimez Dieu. Et malgré tout cela, vous vous retrouvez à être victime, victime de gens qui vous en veulent, qui vous dénigrent, qui vous font du mal, qui veulent votre perte, qui cherchent à vous nuire. Et ces gens-là vous considèrent comme des intrus ou comme des rivaux. Ou finalement, vous êtes quelqu'un qui gêne, qui gênait. Et vous êtes au final traité comme un ennemi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience? Beaucoup de gens passent par là et David a vécu cela. Son expérience se traduit par des prières qu'on trouve dans de nombreux psaumes, où il parle de ses ennemis, où il parle des gens qui lui veulent du mal, alors que de son côté, il a cherché à être bon, à être généreux. Et ces psaumes nous montrent comment, dans ces expériences difficiles, pénibles, Dieu façonne sa vie de prière. Dieu façonne sa façon de vivre. David a dû apprendre à faire face à l'inimitié, au mépris des autres. Et on peut se demander, mais comment a-t-il fait pour ne pas s'aigrir, pour ne pas tomber dans l'amertume? Pourquoi n'a-t-il pas, au fond, rejeté Dieu, alors qu'il servait il cherchait à faire le bien et qu'il vivait toutes ces expériences tellement difficiles? Alors vous allez peut-être me dire, mais parce que Dieu l'a aimé, Dieu l'a secouru, et c'est vrai. Dieu a été pour lui un refuge, Dieu a été pour lui une forteresse, on le lit dans les psaumes, il l'a souvent remonté du fond de l'abîme, il l'a relevé de la fosse. Mais comment Dieu concrètement l'a-t-il remonté de l'abîme? Bien sûr, David a prié. Il a lu les Écritures, mais encore, Dieu lui a donné un ami qui a su être à ses côtés, qui l'a encouragé, qui l'a aidé, qui a été bienveillant avec lui. Et je crois que dans les difficultés, quand on nous critique, qu'on nous évite, qu'on nous attaque, qu'on nous tire dessus, quand on nous abandonne, qu'on nous rabroue, qu'on nous poignarde dans le dos ou qu'on nous traite comme des moins que rien, eh bien, un ami, lui, sait voir le potentiel que Dieu a mis en nous. Un ami fidèle sait reconnaître l'appel que Dieu a adressé. Un ami sait écouter, sait prendre du temps, il sait prier. Un ami se révèle être le plus puissant encouragement que Dieu met sur notre route. Un tel ami est quelqu'un qui nous aide à poursuivre la route avec le Seigneur. Et c'est ce que nous enseigne cette histoire d'amitié entre David et Jonathan. Une histoire qui est marquée par l'hostilité du père, mais que rien ne saura finalement mettre à néant ce que Dieu a permis par le pacte scellé entre David et Jonathan. Et je lis dans 1 Samuel 18, les 5 premiers versets, où David vient de battre le géant Goliath, et où il est écrit que quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Dieu ne le laissa pas retourner dans la maison de son Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Tout commence donc bien dans cette histoire. Et même Saül semble favorable à David, puisqu'il le reçoit chez lui, qu'il souhaite qu'il puisse faire partie de la cour royale. Le problème, c'est que certaines personnes cachent parfois bien leur jeu. Saül ne s'intéresse pas vraiment à David pour qui il est, mais pour ce qu'il sait faire et ce qu'il peut lui apporter. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, ne s'intéresse à nous en définitive que parce qu'il compte pouvoir en retirer un avantage personnel. Saül utilise David. Il l'utilise à cause de son génie militaire. Il l'utilise pour l'envoyer combattre ses ennemis qui le dérangent. Et ainsi, il pourra augmenter son pouvoir politique. En contrebalance, si vous voulez, en contrepartie, on voit Jonathan qui, lui, s'attache à David. Non pas parce qu'il pourrait en tirer un avantage personnel, ni parce qu'il admirerait les prouesses militaires de ce héros auquel il se vouerait sans fin, mais parce qu'il vient d'assister à la conversation peut-être la plus subjugante, la plus passionnante à laquelle il lui a été donné d'assister. Il vient d'entendre son père, le roi Saül, discuter avec ce jeune vainqueur du géant Goliath. Et en entendant David, il entend un homme qui est marqué par la foi, marqué par la conviction d'agir pour Dieu, quelqu'un qui agit pour l'honneur de Dieu et qui ne va pas se laisser restreindre ou empêcher par les obstacles qui se dressent sur sa route. Jonathan sait discerner dans la vie de David quelqu'un sur qui Dieu a mis son onction. Quelqu'un qui est appelé à Dieu, par Dieu, à conduire un jour son peuple. Et Jonathan, plutôt que de faire de David son rival, puisque c'est bien Jonathan, le prince, qui est destiné à prendre un jour le trône, plutôt que de faire de David son rival potentiel, il en fait son ami. Le texte nous dit qu'il s'attache à lui profondément. Le texte dit même, à deux reprises, pour bien insister là-dessus, que Jonathan s'est mis à aimer David comme lui-même. Je me dois de mentionner qu'il y a certains esprits pervers qui veulent voir ici une relation homosexuelle entre David et Jonathan. Il existe même une association qui s'appelle David et Jonathan. Il n'y a strictement rien dans le texte qui laisse entendre une relation contre nature, une relation qui aurait été considérée comme absolument honteuse, condamnable par tout juif de l'époque. C'est même difficile d'évoquer cette simple pensée, parce que le texte met au contraire en valeur la beauté de l'amitié, une magnifique amitié qui est vraie, qui est pure, qui est authentique, qui est sincère. Jonathan s'appuie sur ce qui est écrit déjà dans le Lévitique. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jésus va reprendre cette phrase dans les évangiles. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il va rajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce qui est dit dans notre texte, c'est que Jonathan aime David comme lui-même. Jonathan entre donc pleinement dans l'obéissance au commandement du Seigneur. Aimer l'autre comme soi-même, c'est lui vouloir du bien. C'est reconnaître l'appel que Dieu a placé dans la vie de l'autre. Quand Jonathan se dépouille de son manteau et qu'il revêt David du manteau princier, quand il se dépossède de ses attributs royaux, de son épée, de son ceinturon, de son arc, c'est une manière déjà de reconnaître qu'un jour, c'est son ami qui va peut-être prendre le pouvoir. Remettre le manteau sur l'autre, c'est donner le signe d'autorité à l'autre. Jonathan, avant tous les autres, sait reconnaître que Dieu a placé son onction sur David. Et du coup, il l'encourage. Du coup, il discerne ce que Dieu veut faire dans la vie de cet ami. Et il permet que le projet de Dieu s'accomplisse. Nous sommes souvent intéressés aux autres parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont célèbres, peut-être parce qu'ils passent à la TV ou qu'ils sont sur les réseaux sociaux. On cherche à se faire des amis, même si ce n'est que des amis virtuels avec ces gens-là. Mais on y cherche un gain personnel. On crée des réseaux Facebook, LinkedIn, dans l'espoir de gagner en influence. Jonathan, de son côté, est tout à fait pur dans ses intentions. Il n'y a aucun moment l'idée pour lui de cataloguer David et puis dans une catégorie et puis à chercher ensuite à exploiter cette amitié. L'amitié de Jonathan me fait penser à celle de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ ne s'est pas aussi dépouillé comme Jonathan de son manteau? Est-ce qu'il n'est pas allé à quitter le ciel où il avait toutes les prérogatives royales pour venir sur la terre à notre rencontre et chercher à valoriser ce que Dieu voulait faire en nous, chercher à nous accorder son salut? Jonathan préfigure ce que Jésus va faire. Cette belle amitié sera mise à rude épreuve. Bien sûr, David remporte des succès militaires. Tout le monde commence à l'apprécier, à l'admirer, même les ministres du roi lui portent de l'estime, mais il en est un qui prend ombrage de ce succès grandissant. Le roi Saül s'offusque à un moment donné d'entendre des femmes qui chantent les succès militaires de David. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de mal intentionné dans le chant de ces femmes qui parlent des 1 000 que David a tués, des 10 000 que David, des 1 000 que Saül a tués, que des 10 000 que David a vaincus. C'était une formule courante en hébreu. On parle souvent de 1 000 et on renchérit par le terme qui veut dire myriade, beaucoup. Saül aurait très bien pu comprendre qu'il n'y avait aucune idée de comparaison dans le chant de ces femmes pour dire que David était meilleur que lui. mais il est pris par la jalousie. Et quand on est pris par la jalousie, nous n'avons plus la tête froide, on interprète mal les événements. Saül le prend très mal. Il se met dans une terrible colère et il dit « Elles attribuent 10 000 victimes à David et à moi, seulement 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et à partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Chapitre 18, verset 9. Donc David devient un concurrent. Quelqu'un qui menace la prérogative du roi. Saül est un roi jaloux. Son estime vient du fait qu'il se compare aux autres et qu'il a besoin du regard des autres pour le conforter dans qui il est. David vient lui faire ombrage dans son désir de toute puissance. Il en arrive à considérer que son ministère royal est une prérogative personnelle. Ce n'est plus Dieu qui l'a placé là, c'est à lui de se défendre pour garder son pouvoir. Que serait-il s'il n'était plus roi? Que ferait-il s'il perdait sa place? Et cette jalousie qui commence à l'égard de ce jeune officier, David, va le mener dans un cycle de violence et de destruction. On peut imaginer que David était surpris, qu'il n'a pas bien compris ce qui se passait au début. Jusque-là, il a cherché à être bon. Il a cherché à aider le roi. Il a mené des guerres qui ont facilité la vie du roi. Il a joué de la musique pour calmer le roi quand il était pris par des moments de folie, des moments d'absence de lucidité, qu'il était en proie à des pulsions démoniaques. Souvent, David a réussi à calmer Saül. Mais un jour, Saül, assis avec sa lance au poing, se lève et au lieu que la musique ne le calme, il prend sa lance, il la jette de toutes ses forces pour clouer David au mur. David esquive, Saül s'y reprend une deuxième fois, David esquive encore à nouveau, le Seigneur l'a sauvé. La lance vient se ficher à quelques centimètres de la tête de David, mais David est sauf. C'est le miracle du Seigneur. Dieu l'a protégé. On peut se dire que dans ce moment-là, Saül aurait pu comprendre que l'Éternel était avec David, qu'il l'avait protégé. Dans ce moment-là, Saül aurait pu comprendre qu'il avait fait fausse route, qu'il avait à se repentir, qu'il ne pouvait pas continuer sur ce chemin de la violence. Malheureusement, Saül s'endurcit. Pour lui, David devient de plus en plus une menace. Il cherche à l'écarter du palais, à l'envoyer ailleurs. Le problème, c'est qu'ailleurs, David continue de remporter des succès militaires. Il rentre à la cour, il a encore plus de prestige. Et le plan de Saül s'écroule. Saül devient encore plus colérique à l'égard de David et il imagine froidement un complot pour assassiner David. Verset 17, un jour Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée en mariage à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. » Que tu livres les combats de l'Éternel. Le discours paraît pieux. Saül veut que David travaille pour l'Éternel. En fait, son intention est tout autre. Saül cherche à faire tomber David aux mains des Philistins et il se dit qu'en menant d'autres guerres, il va bien arriver un moment où David périra de la main de l'ennemi. Malheureusement, cela ne se produit pas. Et quand David revient, Saül change ses plans, offre sa fille aînée à un autre au dernier moment et évite que David devienne son gendre. On voit chez Saül un homme qui est manipulateur. C'est un menteur. Aujourd'hui, on pourrait le classifier comme un pervers narcissique. Il a des airs faussement bienveillants. Il apprend que sa fille Michal est tombée amoureuse de David. Il cherche à se rapprocher de David, à lui dire « Écoute, je suis d'accord finalement que tu deviennes quand même mon gendre. Je t'offre ma fille Michal. » David se méfie et Saül utilise un stratagème. Il emploie carrément ses hauts fonctionnaires pour qu'il s'approche de David et cherche à le persuader que ce serait un bon challenge, une bonne chose que sa fille Michal puisse le marier. En fait, à nouveau, l'intention est que David tombe aux mains de l'ennemi. En guise de dot, il lui demande de ramener les prépuces de 100 philistins. Comment David pourrait-il ramener les prépuces de 100 hommes ? Mais David accepte. Et avant même que le délai soit écoulé, il en ramène un sac plein de 200. Le roi ne peut plus empêcher le mariage et Michal devient la femme de David. Saül ne peut que constater que cet homme est privilégié par Dieu, que cet homme est béni, qu'il remporte toujours le succès. Et désormais, le texte nous dit que sa haine devient totale, définitive. Il faut éliminer cet homme qui est une menace pour lui. Il porte l'affaire au Conseil des ministres. Il cherche par tous les moyens à faire éliminer celui qu'il juge menaçant pour son prestige personnel, pour son égoïsme sans borne. Le prince Jonathan, qui fait partie du Conseil des ministres, apprend ce dessein maléfique. Il va en informer son meilleur ami, David, en cherchant à faire raisonner en même temps son père, en lui disant « Mais tu ne peux quand même pas t'en prendre à celui qui t'a fait tant de bien. » Saül semble écouter les arguments du fils et il dit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. » Saül aurait mieux fait de se taire. Il aurait mieux fait de ne pas ouvrir la bouche. Parce qu'il emploie encore une fois le nom de Dieu en vain. Ses paroles ne sont que du vent. Et quand il parle de Dieu, ce n'est que pour utiliser Dieu à ses propres fins. Tout comme il utilise les hommes à ses propres fins. Un mauvais esprit arrive à nouveau sur David, sur Saül. Saül cherche à nouveau à clouer David au mur. Et cette fois, David comprend que la situation devient sérieuse. Il doit fuir, il ne peut plus rester à la cour royale. Alors il faut que je raccourcisse un peu, parce que l'histoire est longue, mais je vais dire simplement que Michal, cette fois, l'épouse de David, joue aussi ce rôle d'amie, de meilleure amie pour David, et réussit à protéger par une ruse son mari en le faisant s'enfuir. Si vous avez fait, vous, l'objet de la violence d'autrui, alors que vous avez cherché à agir dans l'intérêt des autres, alors que vous avez fait de votre mieux, vous pouvez comprendre que David pouvait être un peu déboussolé par ce qui lui arrivait. Il arrive à un moment donné où, quand on est victime de tant d'acharnement, on doute de soi. On ne sait plus trop qui on est. On se demande, mais finalement, l'autre n'a-t-il pas raison ? N'ai-je pas finalement fait quelque chose qui fait que je mérite d'être ainsi puni ? Et David commence à douter. Il va chez son ami Jonathan et lui dit, mais qu'ai-je fait à ton père ? En quoi suis-je coupable à son égard ? Quel tort ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir ? Chapitre 20, verset 2. Quand on est victime d'une violence répétée, on se demande si finalement on ne mérite pas cette violence. Même les victimes d'abus sexuels se demandent parfois si elles ne sont pas finalement responsables de ce qui leur est arrivé. Les victimes d'abus de pouvoir, pareillement. Les victimes de pervers narcissiques, pareillement. Elles ne savent plus qui elles sont. Et c'est dans ce moment-là que David élève son regard vers Dieu, qu'il prie, et nous lisons cette prière au psaume 59, une prière qu'il a écrite dans ces événements douloureux, où il dit « Oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs, hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques, viens me sauver de ces hommes sanguinaires, car les voici qui me guettent. Des hommes cruels contre moi complotent, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde, Éternel, ô Dieu des armées, toi, Dieu d'Israël, interviens, punis ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. » Et je vous laisse lire la suite du psaume 59 chez vous aussi. David clame son innocence. Il demande justice. Et dans ces circonstances, il est tout à fait remarquable que Jonathan maintienne son amitié. Dans ce climat de folie meurtrière du père, qui cherche à 6 reprises à assassiner David, qui nourrit encore par 2 autres fois des complots. Jonathan est pris dans un conflit de loyauté. Est-ce que je vais suivre le père ou est-ce que je vais rester fidèle à mon ami? Il lui faudra du temps pour s'apercevoir que son père n'est pas digne qu'il reste là, fidèle, obéissant, à faire ses volontés. Il lui faudra du temps pour qu'il s'aperçoive que la manière dont Saül voit le monde est une manière déformée par la jalousie et la perversité. Mais il arrive à un moment donné, quand Jonathan prend la défense de son ami auprès de son père, que Jonathan se met dans une terrible colère. On ose à peine lire ces mots qui sont écrits dans la Bible. Saül se met à vituperer contre Saül et lui dit « Fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer et établir ta royauté. » Ah voilà! Tu ne pourras pas t'imposer et établir ta royauté. Saül se met à nu. D'abord, il cherchait à préserver sa royauté. Maintenant, il veut chercher à préserver sa dynastie. S'il veut que David soit éliminé, c'est par désir de népotisme, par désir d'installer son fils sur le trône. Jonathan résiste à son père. Son père le menace comme s'il voulait le tuer aussi. Et Jonathan persiste. L'amitié de Jonathan est une amitié qui ne lui amène que des ennuis. Il accepte de perdre la royauté. Il accepte de perdre les privilèges afférents à la royauté. Son père s'est retourné contre lui. Et malgré tout, parce qu'il a pris un engagement devant le Seigneur, parce qu'il a fait un pacte avec David, il va rester fidèle. Et pour David, cette amitié va être essentielle. Il n'aurait pas réussi à rester à la cour du roi si Jonathan n'avait pas été là. L'un et l'autre s'engagent à être bienveillants l'un pour l'autre, s'engagent à se protéger, à tout se dire. Et ils vont même jusqu'à s'engager à prendre soin de la descendance de l'autre. David demande d'abord la protection de Jonathan. Et puis Jonathan, comprenant que c'est David qui aura le pouvoir, demande à David sa protection. Les deux demandent à s'entraider. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais peut-être êtes-vous dans une situation de conflit difficile, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, dans la société de manière générale. Le Seigneur peut vous aider et vous soutenir grâce à un ami ou à une amie qu'il peut mettre sur votre route. Un ami qui saura vous conforter dans votre identité de fils de Dieu. Un ami qui va vous aider à accomplir la mission que Dieu vous confie, qui va vous encourager, qui ne va jamais vous abandonner. Un vrai ami ou une vraie amie qui ne cherchera pas à vous exploiter, à vous dominer, à vous utiliser. Parce qu'un vrai ami est quelqu'un qui s'intéresse à ce que l'on pense, qui s'intéresse à nos difficultés, qui ne cherche pas à tirer avantage de notre faiblesse, qui permet que l'on se dévoile sans qu'il l'utilise pour nous nuire. Le Seigneur peut vous donner cet ami. Demandez-le lui si vous n'en avez pas. Je crois qu'on néglige trop souvent l'amitié dans les disciplines spirituelles. On parle de la prière, de la lecture de la Bible, mais l'amitié est aussi une discipline spirituelle. Et entretenir l'amitié, rester fidèle à une amitié, est aussi une discipline de la vie avec le Seigneur. David et Jonathan ont été amis l'un pour l'autre grâce au Seigneur. Mais souvenez-vous que Dieu nous a donné un autre ami, fidèle. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus comme l'ami suprême, comme celui qui va toujours nous encourager, comme celui qui va rappeler notre valeur devant le Seigneur, comme celui qui va nous conduire dans l'appel qu'il nous confie. Jésus, notre ami fidèle. Jésus, qui jamais ne trahira le pacte qu'il a fait avec nous, cette alliance qu'il a conclue avec nous à la croix. Ne le trahissons pas non plus. Vivons cette amitié avec Jésus et que de cette amitié puissent naître aussi des amitiés terrestres en qui Jésus se révèle dans la personne d'un frère ou d'une sœur qui saura être un véritable frère ou une véritable sœur sur notre route. Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre quelque chose de cet ordre-là, au nom de Jésus. Amen.